Bonjour Olivier de Schutter.
Bonjour.
Vous êtes depuis 15 jours le nouveau rapporteur spécial des Nations Unies pour l'extrême pauvreté et les droits humains. Vous êtes aussi coprésident du panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables. Question ce matin sur les risques d'explosion de la pauvreté dans le monde. On s'interrogera également sur la fragilité de notre système alimentaire mondial aggravé par la pandémie. D'ailleurs, pourquoi est-il aujourd'hui plus difficile de se nourrir à travers la planète?
Écoutez, il y a deux aspects qui jouent de manière combinée. D'abord, on a dans une série de régions une chute de la production qui tient au fait que les travailleurs agricoles ne peuvent pas se déplacer et que donc on manque de main-d'œuvre au moment des récoltes, et c'est une première explication, ces restrictions à la liberté de circulation. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, tous les travailleurs de l'économie informelle qui ne peuvent plus exercer leur profession et qui n'ont donc pas les revenus qui leur permettent d'acheter de quoi se nourrir.
Pardon de vous couper. Quand vous parlez de travailleurs de l'économie informelle, redites-nous qui sont ces travailleurs qui échappent au contrôle des États?
Alors, dans le monde, c'est un phénomène très important. On a 61% des travailleuses dans le monde qui sont dans l'économie informelle, 2 milliards de personnes qui n'ont aucune protection sociale, qui n'ont aucun filet de sécurité sociale s'ils doivent arrêter de travailler. Et beaucoup de ces travailleurs sont impactés par les mesures de confinement qui ont été adoptées, qui immobilisent une grande partie de l'économie mondiale aujourd'hui.
Et ce qui est le plus étonnant, c'est que les greniers de céréales, notamment, ils sont pleins. C'est tout de même assez paradoxal.
Oui, absolument. Les craintes de pénurie ne tiennent pas au fait qu'on n'a pas de réserves suffisantes. Ces craintes tiennent au fait que la production, dans les mois qui viennent, risque d'être mise en danger en raison des difficultés que les producteurs éprouvent à accueillir une main-d'œuvre agricole suffisante pour les récoltes, et tiennent aux ruptures des chaînes d'approvisionnement. Donc on a quand même toute une série de circuits d'approvisionnement qui sont mis en danger en raison de ces restrictions liées à la lutte contre la pandémie.
Alors, pas de débouchés pour les productions, dites-vous. C'est un peu la spirale vicieuse qui va entraîner la panique boursière, les hausses de prix. C'est ça le schéma qui se prépare dans les prochaines semaines, les prochains mois?
Écoutez, il y a pour l'instant trois grands risques. D'abord, il y a un risque que les restrictions aux exportations se multiplient. Certains États ont annoncé quelques restrictions aux exportations. C'est le cas de la Russie, de l'Ukraine, du Kazakhstan pour le blé, du Vietnam pour le riz. Et si ces restrictions devaient se multiplier, c'est vrai que les marchés pourraient paniquer. On a vu ça par le passé. Il faut absolument éviter que cela ne se reproduise. La deuxième difficulté, c'est que on a une partie de l'économie qui est tout simplement en coma artificiel. Et pour beaucoup de petits producteurs en particulier, la fermeture des écoles, la fermeture de tout le secteur des restaurants, de l'hôtellerie, signifie qu'ils ne savent plus écouler leurs produits. Et donc, on a des stocks qui sont en train de pourrir, de ne pas pouvoir être conservés dans le chef des producteurs. Et puis, troisièmement, il y a les restrictions à la liberté de circulation des travailleurs agricoles et des éleveurs dans beaucoup de régions du monde.
Mais d'ailleurs, d'une manière générale, les petits agriculteurs ont rarement voix au chapitre. On les entend pas.
Alors, ce sont souvent des producteurs qui écoulent leurs produits en circuit court et qui reposent précisément sur ces chaînes de production ou d'approvisionnement courtes. Et en général, ces chaînes sont plus résilientes que les chaînes longues qui dépendent de l'ouverture des frontières aux importations.
On en était au circuit court, hein. C'est peut-être aussi un peu une des solutions qui a le vent en poupe en ce moment.
Oui, tout à fait. On a beaucoup misé par le passé sur l'approfondissement des chaînes longues d'approvisionnement, la division internationale du travail et le développement de ces chaînes mondiales de production et d'approvisionnement. Et on réalise aujourd'hui que ce souci d'une efficience au départ de cette division internationale du travail, stimulée par le commerce international, était en fait une source de fragilité. Et donc on se replie aujourd'hui de plus en plus vers des circuits courts qui sont plus résilients et on se dit qu'il faut que chaque région diversifie sa production pour qu'on puisse produire davantage de ce que l'on consomme et pour que l'on puisse consommer davantage de ce que l'on produit localement. Et je crois qu'il y a là une véritable prise de conscience qui est en train de s'opérer, qu'il faut favoriser la résilience au lieu de toujours mettre l'accent sur les gains d'efficience liés aux chaînes longues d'approvisionnement.
Et que l'on cesse peut-être de piller des pays, je pense au Brésil ou à l'Argentine, mais il y en a d'autres quand on voit le soja qui est cultivé par des Européens pour des élevages industriels, on se dit que le changement doit venir des pays industrialisés.
C'est vrai que notre demande, et notamment notre demande, vous y faites allusion, de fourrage pour les filières d'élevage industriel, est en cause dans ce qui est en train de se jouer. On ne peut plus effectivement continuer d'ignorer les impacts très considérables que nos modes de consommation ont sur l'accès des populations du Sud à leurs ressources. Et le circuit de la viande industrielle est effectivement une excellente illustration de cela. Une grande partie de la déforestation à laquelle on assiste dans l'Amazonie tient au fait que nous importons des quantités considérables de soja du Brésil, de l'Argentine, et c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir à l'avenir.
Olivier de Scutter, nouveau rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. On ne va pas citer beaucoup de chiffres ce matin. Un chiffre tout de même, celui du Programme Alimentaire Mondial. Le nombre de personnes qui souffrent de la faim pourrait doubler d'ici la fin de l'année. 250 millions de personnes pourraient être touchées. Elles sont où? Elles sont en majeure partie dans les pays du Sud, ces personnes qui vont souffrir de la nutrition, de la nourriture en tout cas.
Oui, le chiffre que vous citez est un chiffre effrayant. C'est le chiffre de personnes qui sont menacées de famine dans les mois qui viennent en raison de ce que les circuits d'approvisionnement ont été rompus, que les déplacements des personnes rendent plus difficile la production et de ce que les écoles sont fermées. Dans le monde, c'est 368 millions d'enfants qui dépendaient des écoles pour l'accès à une alimentation à travers des programmes d'alimentation scolaire qui sont largement interrompus aujourd'hui. Et donc, on a aujourd'hui à peu près 135 millions de personnes en famine, notamment dans toute la région du Sahel, dans le Yémen, et ceci en raison des ruptures climatiques, de conflits, de l'invasion de criquets pèlerins en Afrique de l'Est. Mais ce chiffre peut doubler. On peut monter jusqu'à, effectivement, 265 millions de personnes menacées de famine. C'est donc un appel à l'aide que le Programme Alimentaire Mondial a lancé. On se rend compte que cette famine va aujourd'hui prendre une ampleur tout à fait inédite en raison de ces restrictions liées à la lutte contre la pandémie.
Et il faut préciser également que ces difficultés à se nourrir ne concernent pas seulement les pays les plus pauvres. Hein. On évoquera le cas de l'Europe dans un instant, mais aux États-Unis, par exemple, certaines familles, y compris parmi la classe moyenne, certaines familles américaines ont du mal à se nourrir à cause du chômage qui a bondi. Hein.
Oui, c'est dramatique. Donc le chômage est passé aux États-Unis d'un niveau très bas, 3,5% de la population active à 15% aujourd'hui. Donc c'est une explosion des chiffres. Ils n'ont pas de système de chômage partiel comme on a dans les pays européens. Et pour beaucoup des familles impactées, il n'y a pas d'accès à une sécurité sociale digne de ce nom. Et donc, les familles américaines sont très frappées et malheureusement, on constate que ce sont notamment les ménages défavorisés, afro-américains en particulier, qui sont les plus frappés, à la fois parce que c'est là qu'il y a les comorbidités les plus importantes, parce que les mesures de confinement sont très difficiles à appliquer dans des quartiers défavorisés où les gens sont nombreux à occuper des espaces de vie relativement petits, et parce que ce sont ces populations-là qui ont l'accès le plus difficile aux soins de santé. Donc on a une situation aux États-Unis qui est tout à fait inquiétante, avec une insécurité alimentaire qui croît dans ces pays. Je dirais d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles à New York on a hésité à fermer les écoles, c'est parce qu'on a 750 000 enfants qui, dans l'État de New York, dépendent de l'alimentation scolaire pour avoir une nutrition suffisante. C'est donc aussi quelque chose qui concerne les pays riches.
Est-ce qu'il faudrait à ce moment-là un fonds mondial pour la protection sociale, puisque vous êtes en train de nous dire que tout ça a à voir, évidemment, avec la protection sociale, y compris dans les pays en développement?
Les pays les plus pauvres ont effectivement une difficulté à financer des programmes de protection sociale digne de ce nom, qui protège les personnes par des allocations familiales, des allocations de chômage, des assurances maladie invalidité, des pensions de vieillesse. Il faut les y aider. Et une des propositions qui circulent et que j'appuie, c'est de créer un fonds mondial de protection sociale qui pourrait non seulement aider les pays à financer cette protection sociale, mais qui pourrait aussi fonctionner comme un mécanisme de réassurance permettant aux pays qui font face à des chocs climatiques, économiques ou sanitaires de bénéficier d'une sorte d'assurance leur permettant de financer une protection sociale qui sinon ne serait pas finançable. Et donc il faut aider ces pays à oser franchir ce cap de garantir à toute la population un minimum de protection sociale. C'est l'idée de ce fonds mondial de protection sociale.
Notre invité ce matin, Olivier De Schutter, le nouveau rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. On va prendre un auditeur au standard de France Inter 01 45 24 7000 avec Bruno qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Quelle est votre question ?
Bonjour, je m'appelle Bruno, oui effectivement. Je voulais vous féliciter pour vos émissions et remercier votre invité.
C'est très gentil.
Je viens de rentrer d'Argentine, j'ai bénéficié d'un vol de rapatriement de l'ambassade. L'Argentine, petit propos liminaire d'une seconde, le président Alberto Fernandez a plutôt mieux géré et anticipé que des gens comme M. Obrador au Mexique ou M. Bolsonaro au Brésil. Fin de parenthèse. Je voudrais savoir, de la part de votre invité, en quoi et comment les organismes internationaux pourront ou pas intervenir au Brésil, vu la manière qu'a le président brésilien de gérer la crise du Covid. Tous les pays du cône sud et de l'Amérique latine sont effrayés par la manière de gérer tout ça. San Pablo est en train de mourir avec tous les quartiers pauvres qu'on appelle là-bas les favelas, les bidonvilles. Je voudrais savoir, au-delà de... Vous avez dit tout à l'heure que les pays qui subissent des catastrophes climatiques. Oui, ils les subissent, c'est vrai, mais il y a aussi une politique d'autisme vis-à-vis des organismes internationaux. On sait l'ouverture qu'a M. Bolsonaro et le type d'écoute qu'il a vis-à-vis des organismes internationaux. Donc, pour faire court, excusez-moi, je voudrais savoir en quoi vous pouvez ou pas intervenir au Brésil.
Et influencer la politique du président Bolsonaro. La réponse, le point de vue d'Olivier De Schutter.
Oui, merci pour votre question. Je crois qu'effectivement, il est difficile de traiter avec certains gouvernements qui rejettent le multilatéralisme et qui considèrent qu'ils n'ont pas de leçons à recevoir de la part de la communauté internationale, c'est vrai. Heureusement, le Brésil est un pays fédéral et il y a un pouvoir considérable qui est entre les mains des gouverneurs des 27 États qui composent la Fédération du Brésil. Et au niveau des gouverneurs d'États, il y a beaucoup de gouverneurs qui prennent en main les choses, de maires aussi à l'échelle municipale. Et c'est notre chance. Aujourd'hui, pour lutter contre l'épidémie, pour lutter contre la malnutrition qui accompagne l'épidémie, les pouvoirs locaux ont un rôle très important à jouer. C'est d'ailleurs ce qu'on constate aussi aux États-Unis, par exemple, où ce sont les maires des grandes villes qui ont pris les mesures les plus importantes et parfois en opposition au pouvoir fédéral.
Et bien souvent, ce sont des États qui s'en remettent aux bénévoles, hein, notamment les bénévoles des banques alimentaires. Vous estimez qu'en Europe aussi, par exemple, les États n'ont pas assez conscience de cette crise alimentaire ?
Écoutez, malheureusement, les banques alimentaires ont vu leur rôle s'accroître depuis une quinzaine d'années. La crise financière de 2008-2010 a conduit à une explosion du nombre de personnes dépendant des banques alimentaires et celles-ci sont devenues, malheureusement, une partie intégrale et permanente de notre paysage de protection sociale. C'est tout à fait inacceptable. Le bénévolat, la charité ne peuvent pas être un substitut à une protection sociale garantie par l'État. Je m'en inquiète et je m'en inquiète d'autant plus que ces banques alimentaires dépendent très souvent d'un travail bénévole, de personnes souvent âgées qui ne peuvent pas s'exposer au risque de contamination. Et donc le travail de ces banques alimentaires, Secours catholique, Restaurant du cœur, etc., est un travail qui a été d'autant plus difficile au cours des derniers mois. Elles ont besoin de soutien, ces banques alimentaires, mais il faut surtout considérer que ces banques alimentaires sont un indicateur extrêmement problématique de notre incapacité à venir au secours des personnes en grande pauvreté.
Et d'une défaillance des États, on pourrait même aller plus loin en parlant de proximité d'intérêt entre les gouvernants, les gouvernements et les fournisseurs d'engrais ou de pesticides.
C'est c'est vrai que les gouvernements ont souvent traité la question de la faim, de la malnutrition, comme une question technique de production et ont encouragé des solutions visant à booster les volumes de production. Ceci n'est pas une réponse satisfaisante. La vraie cause de la faim, ce sont les conflits, ce sont l'absence de soutien aux programmes de protection sociale, ce sont des programmes d'alimentation scolaire qui ne sont pas suffisamment financés. Et donc c'est une question non pas technique mais politique que celle de la faim. Et ces solutions productivistes ne répondent qu'à une partie du problème complexe qui est celui de la lutte contre la faim à l'échelle mondiale.
Donc l'OMC a tout faux.
En tout cas, l'OMC est en train de revoir sérieusement le logiciel au départ duquel elle opérait jusqu'à présent. L'idée qui avait longtemps prévalu, c'est qu'il fallait que le commerce international soit encouragé, que chaque région, chaque pays devait se spécialiser autant que possible dans ce pour quoi il était le mieux doté, et qu'ensuite, l'échange international permettrait de permettre à chaque pays de satisfaire ses besoins. Et malheureusement, ce logiciel ne marche plus. On voit aujourd'hui que la mondialisation des échanges est une source de fragilité, dès lors que les chaînes d'approvisionnement mondiales sont rompus ou menacés, dès lors que les travailleurs ne peuvent pas circuler d'un pays à l'autre, où les marchandises sont entravées, on prend conscience de la fragilité de ce qui a été mis en place.
Un dernier mot.
Relocaliser, reterritorialiser est extrêmement important.
Olivier de Scutter, un dernier mot sur les vaccins. Les hommes auront-ils les mêmes droits face à un éventuel vaccin contre le Covid-19 dans quelques années, je n'ose pas dire dans quelques mois, pour ne pas paraphraser le président américain?
Évidemment, tout à fait important que le vaccin que l'on développe soit accessible à tous et toutes et que ce soit traité comme un bien commun mondial. C'est le sens d'un appel très important qui a été fait par toute une série d'agences des Nations Unies au secrétaire général des Nations Unies. Évitons que les nationalismes et les égoïsmes nationaux reprennent le dessus dans ce débat tout à fait vital qui est celui de la recherche du vaccin.
Et je précise que ce sera lundi la 73e Assemblée mondiale de la santé, et vous en profitez avec quelques sommités internationales politiques ou scientifiques ou des ONG pour co-signer un appel international pour que les gouvernements s'unissent derrière un vaccin pour tous. Merci beaucoup Olivier de Scutter d'être venu nous éclairer ce matin sur France Inter, et je rappelle que vous êtes depuis 15 jours le tout nouveau rapporteur spécial des Nations Unies pour l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Merci beaucoup et bonne journée.
Avec grand plaisir, merci.